qu'est-ce qui s'est passé aussi en 1988, c'était la disqualification de Ben Johnson. Alors, on était dans les grandes années du dopage en ce moment. Et d'ailleurs, elle est décédée à 38 ans, Flo Jo. Elle est morte de causes quand même assez mystérieuses. Mais entre autres, ce record du monde, c'est pas fait aux Jeux olympiques. C'est fait lors des quarts de finale des sélections américaines qui avaient lieu à Indianapolis. Et elle avait battu la détentrice du record olympique, de la championne olympique de Los Angeles, Evelyn Ashford, par 2 mètres, imagine. Alors, elle a mis 2 mètres en arrière. Et en fait, d'ailleurs, à l'époque, on disait que la performance était stupéfiante. Ça, c'est un qualificatif qui est le fun à utiliser, justement, qu'on n'est pas sûr. En fait, c'était tellement stupéfiant, c'était tellement controversé qu'on avait même soupçonné un dysfonctionnement de l'anémomètre, le vent qui pousse. Oui. Et puis, on avait dit, bon, OK, quand même, là, on peut pas pousser, on va accepter le record, mais effectivement, par la suite, c'était les années où le dopage était assez flagrant. Et tu sais, d'ailleurs, on se rappelle tous que les 8 coureurs du 100 mètres à Séoul ont tous été pris pour dopage. Hein?
Ben voilà, c'est que Johnson s'est fait attraper, le méchant, mais... Après ça, bien, je me rappelle la façon dont les Américains avaient traité l'affaire. Toute la journée, ils passaient l'image de Johnson, cheater, cheater, cheater. Mais Lewis, en arrière, était pareil. Là.
Lewis s'était fait tester positif à 3 reprises avant les Jeux de Séoul, mais il y avait eu un lobbying qui avait fait en sorte que ces tests n'avaient pas passé. Alors, j'entends revenir un peu plus tard sur un sujet similaire, mais je veux te parler aussi d'une autre performance qui est absolument extraordinaire. C'est le sauteur à la perche, Armand Duplantis, qui est officiellement court pour la Suède, mais qui est originaire de Lafayette, en Louisiane. On parle beaucoup de Louisiane, où avait lieu la course d'ailleurs d'Audrey. Mais il a battu son record du monde d'un centimètre. Il a franchi la barre à 6m24. Alors, Duplantis, là, c'est une véritable ode à la biomécanique sportive. Ah oui. Parce que le saut à la perche est une discipline technique épouvantablement difficile. Incroyable. Courir avec une perche de près de 5 mètres sur 50 mètres en essayant d'atteindre la vitesse maximale, avoir le déroulé parfait sur la perche pour pouvoir se faire projeter par la suite, profiter de l'action-réaction de la perche pour être projeté encore plus haut et réussir à dérouler par-dessus la barre, évidemment à cette hauteur, c'était absolument fantastique à regarder. Et lorsqu'on voit les images, bon, on sait qu'il y a encore de l'espace parce qu'il a passé, il a passé d'un bon 10 cm. Ah, évidemment, de remettre à barre 10 cm plus haut, ça peut tout changer la perception puis la confiance par rapport à ça. Mais Duplantis, 24 ans. Lui, là, ça fait 8 fois qu'il améliore le record du monde. Là. Depuis 2020, là, il laisse que des miettes à ses adversaires. Et il est le garçon d'un sauteur à la perche qui s'appelle Greg Duplantis. Et c'était un Cayen. Alors, c'était un Acadien à l'origine. Ouais, d'où le nom, un nom aussi français qu'on peut entendre. Sa mère, c'était une heptathlète et une volleyeuse suédoise. Son père, d'ailleurs, bon, qui est perchiste, c'est son entraîneur. Et c'est en 2015 qu'il a adopté la nationalité sportive suédoise. Ça lui permettait d'avoir un meilleur accès aux compétitions. Il a commencé à faire de la perche à 4 ans. Il y a ça dans le sang, littéralement. Là. Alors, il sautait comme ça à la perche dans sa cour arrière. Et ça fait depuis 2015 là qu'il bat tous les records. Là. Dès qu'il était jeune, d'ailleurs, il faisait des records de ses âges.
À chaque fois que je les vois arriver à toute vitesse, puis donc planter la perche dans le sabot dans lequel elle reste prise, puis tu la vois qui courbe, presque à 90 degrés, là. Tu dis, elle va casser, un jour, ça va casser. Non, ça casse pas, puis là, ils sont propulsés dans les airs, t'as raison, ils se retournent, puis
c'est extraordinaire. Ouais, vraiment, là, puis des fois, il arrive malheureusement des accidents. On a vu dernièrement, il y a une perche qui a cassé, puis la demoiselle est tombée sur le point de départ, là, à l'extérieur du matelas de réception. Alors, c'est un sport qui a quand même son gros facteur de risque, mais c'est absolument extraordinaire à regarder. Vous savez, l'occasion, évidemment, voir du saut à la perche, c'est compliqué, là, on préfère montrer beaucoup d'autres choses ici à la télévision, mais là, peut-être que l'utilité des Jeux olympiques va faire son œuvre. On va pouvoir le voir à cet endroit. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Scandale chinois, je ne sais pas si tu as vu en fin de semaine.
Je m'en doutais. Toutes ces victoires, enfilées les unes aux autres en natation, alors qu'ils n'ont jamais été bons en natation.
On parle de la médecine chinoise millénaire, mais la natation chinoise, c'est pas millénaire.
C'est pas millénaire.
23 nageurs chinois testés à la trimétazidine. Ça, c'est le médicament de Camilla Valieva en patin artistique. Hein? Alors, on dit qu'il y a une contamination à l'issue de ces 23 nageurs chinois à la veille des Jeux de Tokyo par hasard. Mais le problème, c'est que ces petites pilules, c'est, en fait, c'est des pilules, c'est pas quelque chose qui est volatile. Alors, pour qu'il ait été contaminé, c'est qu'il a fallu qu'il aille dans un party de pilules puis il ait pris les mauvaises finalement. Mais c'est pas ce qu'on dit au niveau de la Chine. On dit qu'ils étaient dans un hôtel et qu'après enquête, ils ont retrouvé deux mois plus tard qu'il y en avait dans les hottes de la cuisine.
D'ailleurs, ils ont fait pendre le gars qui a posé les hottes. Et ça, c'est réglé maintenant. Il est pendu. Tout va bien.
Alors, méchant scandale. Et puis, ben, ça m'amène à vous dire, ben, quand vous allez regarder les nageurs aux Jeux de Paris, ben, ça se demandait qu'est-ce que vous allez regarder. C'est la journaliste Marie-Louise Arsenault qui m'avait déjà posé la question. Mais qu'est-ce qu'on regarde aux Jeux quand on regarde les Jeux olympiques? Et on parle de ces Jeux qui s'appellent Enhanced Game, les Jeux qui n'auront pas de test antidopage, donc où les gens vont pouvoir être dopés. Moi, quelque part, je me dis peut-être que ça existe déjà. C'est juste qu'on veut pas le voir. Et surtout avec des pays totalitaires, ben, c'est très dur de poser des questions. Et on n'aime pas ça quand on pose des questions.
Jean-Luc Brassard, merci beaucoup et à demain. Vincent Gratton au retour. Il a fait le tour du monde, il vient nous en parler.
Vous connaissez quelqu'un qui s'est illustré dans un domaine sportif? Contactez Sport à commercial cfxrimouski.com. Vous faites partie d'une organisation sportive? Votre équipe participe à un tournoi? Contactez-nous, CFXFM 93, la référence pour tout ce qui se passe dans la région.
Parce que nous tenons à nos clients. Alignement PMM t'invite à prendre rendez-vous pour préparer ton véhicule pour l'été. Que ce soit pour un changement d'huile, un alignement ou tout simplement pour une réparation. Alignement PMM est là pour toi. Des vieux pneus d'été fondus, pas de problème, on en vend. On vend aussi des pièces de qualité. Parlant de qualité, celle de notre service n'est plus à faire. Prends rendez-vous dès maintenant. Alignement PMM. 418-722-6727. 418-722-6727.
Vous cherchez un local idéal pour votre entreprise? Bien situé sur la rue Saint-Germain, en plein centre-ville de Rimouski, très accessible en avant ou en arrière avec une superficie de 1252 pieds carrés. Pour plus d'informations ou une visite, contactez Danny au 418-727-5960.
Vous cherchez à donner à votre terrain l'amour et l'attention qu'il mérite? Les services DED sont là pour vous. Pour votre service d'entretien de gazon, tonte régulière, aération du sol ou de la fertilisation, tonte de haies et d'arbres, lavage de vitres ou entretien printanier, ils sont là pour répondre à vos besoins. Confiez-leur votre gazon et profitez de l'été. Ils offrent aussi les services de conciergerie commerciale, industrielle et institutionnelle. Contactez-les dès maintenant. Les services DED au 418-725-8296.
Envie de découvrir ou de redécouvrir les produits et services de vos entreprises coup de cœur? C'est au Salon des exposants Réseau VIP que ça se passe. Avec une trentaine d'entreprises, animations, prix de présence et entrée gratuite. Le 27 avril de midi à 16h à la salle Louis-Philippe-Anctil de Louisville. C'est le sprint Santé Minceur chez Santé 2000 Le Club. Profitez des promotions anti-inflation allant de 15 à 50% pour un sprint rapide et efficace. Optez pour un mois tout inclus à deux entraînements par semaine avec entraîneur. Deux évaluations corporelles, entraînement illimité en salle, un cours de groupe au choix et une consultation en nutrition. Découvrez l'endermologie pour seulement $9.95 et des rabais de 30 à 50% sur les forfaits. Bienvenue au club! Inscription santé2000leclub.com, certaines conditions s'appliquent.
Ne manquez pas la toute nouvelle chronique de Sébastien Desjardins de H. Grégoire Rimouski. Démystifions la vente de véhicules usagés et tout ce qui l'entoure. Il a de bons conseils pour vous. Soyez au rendez-vous tous les vendredis à 9h15. Une présentation de H. Grégoire Rimouski.
FM 93, fier de desservir la capitale du Bas-Saint-Laurent.
Voici Luc Ferrandez.
Bon, à l'occasion du Jour de la Terre, Vincent Gratton nous présente sa nouvelle série documentaire qui s'appelle Climat d'urgence. J'ai vu les quatre premiers épisodes, je suis tombé, pas sur le cul, face contre terre, patao!
Oh, wow!
Vincent, t'as eu une chance incroyable.
C'est un grand privilège de pouvoir faire ce documentaire-là, de le faire aussi avec une équipe terrain incroyable, deux réalisateurs, Mathieu Fontaine, Mathieu Vachon, des gars qui sont habitués à prendre la route, des directeurs photo, même chose, Mathieu Couture, Olivier Chenaval, des gars qui savent s'adapter à toutes les situations, puis une équipe évidemment de recherche, de scénarisation, puis de production incroyable.
Vous avez fait combien de pays?
On a fait 13 pays. C'est un projet de 13 pays, 12 pays. puis on finit au Québec. Donc, il nous reste, on a complété 12
Comme
pays.
Comme nous, on n'est pas encore un pays, on attend pour dire que ça va être 13.
Lance-moi pas là-dessus, là. Ben, c'est ça. Alors, là, on attend un tournage, le tournage au Québec, parce que c'est important pour nous de conclure la chose ici, puis de dire qu'est-ce qu'on fait maintenant à travers tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vu, vécu, puis c'est quoi la situation ici. C'est vraiment une série qui donne un aperçu des impacts climatiques chez ceux qui le vivent en première ligne. On n'est pas ici dans un salon d'Outremont où on parle en spécialiste, on n'est pas pantoute dans ça.
J'interview des personnes qui sont déplacées à Dakar parce que leurs terres ont été inondées. Ils habitent dans des maisons de tôle. T'es rentré dans des maisons. Il fait une chaleur étouffante. Il n'y a pas de fenêtres. Il n'y a pas d'air climatisé, bien sûr. Mais ils ont vu sur des maisons qui ont de l'air climatisé. Et ils dorment à je sais pas combien dans des pièces. C'est l'horreur.
Il y a à la fois ça et il y a le portrait de ces gens-là. Puis c'est là, Luc, à chaque fois que j'en parle, à un moment donné, j'ai toujours une espèce de montée d'émotion. En fait, cette montée d'émotion-là vient beaucoup à travers les gens. Puis les souvenirs que j'ai de ces gens-là, le mot résilient, oui, dans ce cas-là, il est totalement exact. Ce qu'ils font pour se remettre en vie, pour créer des solutions, l'imagination, l'inventivité et le sens de la communauté qui est incroyable. Dans le cas de Dakar, première journée, on arrive au Bangladesh, puis Mathieu Vachon, notre réalisateur, il dit, bon, OK, on commence avec ça. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Puis on a notre pinaki, parce qu'on avait toujours un fixeur ou un guide qui nous... Et Pinaki avait évidemment travaillé un peu, il a fait une espèce de survol là, de gens qu'on pouvait rencontrer, mais on ne sait jamais là, ce qui se passe. Pinaki nous a simplement dit, les gars, vous restez ensemble. C'est important de rester ensemble.
Ah, parce que les petits dédales de rue.
Oui, puis il y a beaucoup de violence à Kibera, au Kenya, les gens ne voulaient même pas qu'on rentre. Donc, on rencontre, puis on rentre. Et qui sont ces gens, par exemple, au Bangladesh? Ben, ce sont des déplacés climatiques. Parce que l'enjeu du Bangladesh, c'est que tu as 40 millions de personnes, c'est un des pays les plus densément peuplés au monde, 40 millions de personnes qui habitent au niveau de la mer. Donc, avec les événements climatiques qui se passent, la mer, évidemment avec l'eau saline, embarque littéralement sur les terres. Les agriculteurs, les agricultrices ne peuvent plus cultiver la terre. C'est des drames sociaux humains incroyables. Et là, il y a un déplacement vers les villes. Et on parle de quoi? 2 000-3 000 personnes qui, chaque jour, arrivent à Dakar. Et ils vont où? Ils vont dans ces bidonvilles. Donc, pour une équipe de rentrer dans ces bidonvilles, de voir l'impact des changements climatiques, pas seulement sur la nature, mais sur le plan social aussi, ce que ça fait. L'autre grande découverte qu'on a faite, puis tu sais, des fois, il y a des affaires que t'attends pas. C'est que ça dépend évidemment des tragédies environnementales, les sociales. C'est l'identité. Comment ça affecte l'identité?
Ah, mais moi, je peux-tu te dire que quand tu vois les Sénégalais qui vivaient dans des villages avec une architecture, avec une place publique, avec une couple d'arbres, et tu les vois dans leurs espèces de tentes, ben c'est des tentes un peu solides, là.
En plastique.
Ah! Pas un arbre. Ils perdent de vue, là, tu dis, mon Dieu Seigneur, puis ils sont là pendant, tu dis, ah, c'est temporaire, non. Ils sont là pendant des années.
Des années.
Je pense qu'ils vont rester là, je crois bien, parce que...
Ben, pour l'instant, oui, mais ce sont des pêcheurs, les pêcheurs, c'est qu'il y a plus de poissons. À cause de la surpêche, mais à cause du réchauffement climatique, à cause de l'acidification des eaux et tout. Alors, eux se retrouvent dans des... littéralement parqués, là, comme tu le dis, sans arbres, dans des tentes de plastique, et ils vivent là-dedans 8, 9, tu vois 5, 10 minutes, puis tu dis, tabarouette,
la chaleur.
La chaleur. Mais c'est une histoire d'amitié, comme par exemple dans la scène dont tu parles, quand cet homme m'offre le thé, tu comprends, on vit des expériences à travers le thé de fraternité, de confession, puis évidemment chez tous les membres de l'équipe, il y avait cette obsession de parler aussi dans du cœur des gens, de ce qui les anime, de ce qui les fait vibrer. La rencontre pour nous est très très importante parce qu'on voulait pas rester seulement au niveau des drames puis des tragédies climatiques. On voulait aussi amener les gens à savourer littéralement la beauté des gens.
Oui,
la beauté
des gens. Ça marche. Ouais. Parce que dans ces entrevues-là, on le perçoit. On perçoit avec le Sénégalais dont tu parles, on le perçoit aussi avec à Dakar. L'Australie aussi. L'Australie, les incendies, on voit ça de loin. On se dit, ah, ben tiens, ça a brûlé. Non, ça a brûlé, mais après ça, c'est des communautés entières qui meurent, là.
Absolument. Et encore là, on rencontre notre doudou au Sénégal. Un gars incroyable. À Goulac, dans le nord, à l'est de Saint-Louis. il explique que le désert, l'avancée du désert. Il dit, toi, tu penses que le désert, c'est mort. Non, il dit, le désert, c'est vivant. Il dit, le désert, ici, c'est le désert qui est en Mauritanie. Il dit, le désert de Las Vegas, il dit, c'est le même désert. Il dit, les feux qui brûlent actuellement en Grèce, c'est les mêmes qui brûlent au Canada.
Ah oui.
Alors, t'as une espèce de gars incroyable, un tribun qui dit à quel point tout est interrelié. Et il y a ça beaucoup dans...
Ben, il a tellement raison.
Ben, y a tellement
dans,
raison.
Dans les neiges des Alpes, on retrouve les sables, le sable du Sahara, là.
Exact.
Parce que quand il y a des grands vents, une